c'est la cloche de CFM Radio. Bonjour mesdames et messieurs, le carnet de correspondance, l'émission de CFM Radio qui vous ouvre les portes et vous ramène sur les bancs de l'école. Le mois dernier, il s'est passé beaucoup de choses dans les établissements. Sur CFM Radio, nous avons consacré deux émissions sur le harcèlement scolaire dans le cadre des Journées nationales contre le harcèlement. Mais il y a une semaine un peu particulière qui a failli vraiment passer un peu comme ça dans l'oubli du carnet de correspondance, mais on ne faillit pas sur CFM Radio. On revient quand même avec un peu de retard sur ce qui a eu lieu dans pas mal d'établissements scolaires la deuxième semaine du mois de novembre, qui est traditionnellement désormais la semaine école-entreprise. Un moment un peu particulier qui conduit les entreprises et les établissements scolaires à organiser des actions vraiment spécifiques autour, on va dire, du monde de l'entreprise. Ça passe par des visites, des accueils d'intervenants dans ces établissements, des conférences, des stages aussi pour de nombreux élèves, étudiants et même parfois des enseignants aussi qui profitent de cette période-là pour aller se former aussi parce qu'il n'y a pas d'âge pour se former. Des initiatives qui sont nombreuses et cette année, la semaine école-entreprise a eu lieu du 27 novembre au 1er décembre. Mais au-delà de cette semaine qui est dédiée à renforcer les liens entre l'école et l'entreprise, les échanges sont réguliers et très anciens entre ces deux mondes-là. Et c'est tout ça que l'on va un peu regarder aujourd'hui avec attention, avec Jean-Marc Robin qui est avec nous chaque semaine sur CFM Radio. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jacques.
Principal du collège Valserou de Cordes-sur-Ciel, mais qui a été aussi un proviseur adjoint au lycée Louis Rascol d'Albi. Tu t'es aussi occupé d'étudiants en BTS, donc forcément le lien là entre, on va dire, l'école et l'entreprise, tu connais. Et tu continues même à bien le connaître parce que tu fais aussi le lien avec quelques entrepreneurs locaux, comme on va le voir là dans l'immédiat, parce que je me suis dit, tiens, avant de parler de théorie et peut-être un peu de ce que toi tu peux nous dire sur ces liens-là entre l'école et l'entreprise, on va passer un coup de fil tout de suite. Un entrepreneur local, c'est monsieur Christophe Dourdouf de la ferronnerie Occitane à Cordes-sur-Ciel qui a l'habitude d'accueillir des élèves en stage mais aussi des élèves en formation. On le retrouve tout de suite par téléphone.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Bonjour Christophe Dourdouf.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio dans le carnet de correspondance. Alors Christophe, aujourd'hui on parle de l'entreprise, du monde de l'entreprise et du lien avec l'éducation nationale. Mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord ton entreprise qui accueille d'ailleurs aussi des élèves en formation?
Alors, moi j'ai créé l'entreprise en 2009, donc il y a 14 ans, avec un salarié. Actuellement, on est 6. On réalise à peu près 800 000 euros de chiffre d'affaires. On fabrique tout ce qui est serrurerie destinée essentiellement au bâtiment, un petit peu de mobilier. On travaille également avec des collectivités, des entreprises sur des marchés publics et on travaille beaucoup pour les particuliers.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous...
Actuellement, on a en effet un stagiaire qui est en CAP, pardon.
D'accord.
Mmh. En deuxième année de CAP, et qui dort au collège de Cordes. Voilà. Je ne sais pas après si tu avais d'autres questions.
Ben si, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait ce stagiaire à votre côté, parce que accueillir un stagiaire, ce n'est pas toujours évident, parce que ça demande du temps, mais ça permet aussi d'avoir des personnes bien formées par la suite, quoi.
Alors, oui, avoir un stagiaire, ça peut être une contrainte pour une entreprise parce que la loi est très bien faite. Donc, du coup, théoriquement, ils peuvent pas faire grand-chose, surtout quand ils sont très jeunes. Mmh. Ce sont généralement que des stages d'observation, donc ils touchent à rien. Dans le cas de Sandro, qui est là pendant 6 semaines chez nous, lui est en CAP, est en deuxième année. Et donc, du coup, lui, par contre, c'est un stage d'atelier où là, par contre, lui, il touche vraiment la matière et tout ce qui est outillage. Alors, sur des petits projets, on le met sur des petits projets assez simples à réaliser, où là, ça lui permet, lui, vraiment de se faire la main dessus, quoi.
Quelles sont vos attentes en tant que, on va dire, entreprise tutrice comme ça de stagiaire?
Moi, j'ai pas spécialement d'attente par rapport à un stagiaire. À partir du moment où il n'est pas rémunéré, il n'y a aucune contrainte. Enfin, on lui demande pas grand-chose entre guillemets. On n'attend pas grand-chose. C'est surtout lui qui met le doigt sur vraiment le travail en entreprise. Les contraintes qu'il va y avoir plus tard, parce que dans très très peu de temps, il aura les deux pieds dedans. Il aura fini sa formation et du coup, les contraintes d'horaire, les contraintes de travailler avec une équipe, le côté relationnel et puis le sérieux également. Parce qu'aujourd'hui, un stagiaire, enfin un étudiant ne réalise pas qu'en fait, quelque part, il est aussi jugé dans ce qu'il fait dans un stage. C'est-à-dire qu'il y a des stagiaires qui sont passés ici. S'ils me demandaient de les employer, je leur dirais non, franchement non, parce qu'ils manquent de sérieux. Par contre, j'en ai certains que j'ai retenus parce que, il y avait un sérieux, une application dans ce qu'ils faisaient, et on sentait que c'était des jeunes qui allaient forcément progresser et vraiment des personnes intéressantes, quoi.
C'est ça aussi l'avantage du stage, hein. Pour un stagiaire
Oui.
déjà, c'est de pousser la porte d'une entreprise et peut-être de se faire repérer par ce biais-là. Pour l'entreprise aussi, c'est un moyen de mettre peut-être la main sur des futures ressources humaines. Mais j'aimerais savoir, Monsieur Dourdault, est-ce que vous trouvez que l'éducation nationale forme assez bien les jeunes au monde de l'entreprise? Là, on ne parle pas, on va dire, des matières très théoriques, mais vraiment sur la pratique. Comment vous les trouvez-vous, ces stagiaires, quand ils passent chez vous?
Alors, en troisième, c'est quand ils sont en quatrième, troisième, c'est compliqué de
Oui,
juger
là, ils sont jeunes, là.
ouais, voilà, c'est trop jeune. Après, on a eu des stagiaires, nous, en BTS, où là, on sentait quand même qu'il y avait une marche entre le BTS, ce qu'ils apprenaient en cours et la vie en entreprise. Cette marche, elle y a toujours été. C'est-à-dire que moi, j'ai été stagiaire il y a une vingtaine d'années. Voilà, j'avais un bac plus 3, je faisais un stage de 3 mois dans une entreprise. J'ai appris en 15 jours, moi j'avais fait une formation de dessinateur au départ, j'ai appris en 15 jours de stage, pardon, plus qu'en toute ma scolarité, sur la partie technique, sur la partie dessin. Donc du coup, il y a déjà une vingtaine d'années, il y avait une marche entre ce qu'on apprenait et le milieu de l'entreprise. Cette marche, elle y est toujours. Quand moi je reçois des stagiaires, je vois que le niveau en dessin, je parle en dessin, en conception ou autre, sachant qu'on fait quand même des choses assez simples, on ne dessine pas des avions, elle y est toujours. Pour moi, elle y est toujours. Après, il y a des personnes quand même qui tendent à développer et à réduire à créer des liens avec les entreprises, notamment des professeurs qui sont très impliqués. Que ce soit au niveau collège, au niveau lycée ou autre, on sent que certaines personnes font l'effort justement de faire toucher du doigt que dans quelques temps, et très très peu de temps pour certains, ils auront les deux pieds dans l'entreprise, quoi.
Il faudrait plus de pratique selon vous?
Un petit peu, ouais. Oui. Oui, parce que beaucoup d'étudiants ou autres oublient pourquoi ils vont à l'école. C'est-à-dire que pour moi, certaines, quand on est étudiant, moi je l'ai été aussi, hein, mais on est un petit peu déconnecté de tout ce monde de l'entreprise, on le voit de très très loin. Alors qu'en fait, il arrive très très vite. Moi je pense qu'il y a des liens à créer qui doivent être créés impérativement surtout pour les formations techniques, entre les lycées et les entreprises.
Eh bien.
Donc l'apprentissage, aujourd'hui on pousse beaucoup sur l'apprentissage, il y a beaucoup d'aides
C'est
qui sont
vrai.
données aux entreprises là-dessus, qui permettent justement à des jeunes de s'insérer un petit peu plus vite dans l'entreprise, parce que avoir un jeune, ça peut être une contrainte, d'être derrière lui, de lui apprendre tout le métier, entre guillemets. Mais dans les formations aussi, on sent, on pourrait faire mieux, on pourrait toujours faire mieux.
plus de liens entre, on va dire, les établissements, hein, que ce soit les collèges, les lycées, ben, les universités aussi, hein, avec le monde de l'entreprise. Ben, tiens, on va en parler maintenant dans le carnet de correspondance. Merci beaucoup, Christophe Dourdou, on va dire le PDG, hein, CEO de la ferronnerie occitane à Cordes-sur-Ciel, c'est au 36 de l'avenue de la Grisigue. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission.
Merci Jacques, à bientôt.
CFM. CFM Cordes. CFM, l'esprit rock.
Merci encore à Christophe Dourdou qui a dit beaucoup de choses. Hein. Je te voyais opiner du chef Jean-Marc quand tu l'entendais, Christophe, nous témoigner comme ça un peu de ce qu'il vit et ressent en tant que chef d'entreprise avec les liens qu'il a avec l'école. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans cet échange, dans les propos de Christophe Dourdou?
Ce qui m'a marqué, c'est d'abord sa bienveillance. C'est-à-dire que lui, il comprend très bien que les jeunes... Bon, il y a toujours un temps d'adaptation hein, lorsqu'il passe du monde de l'école au monde de l'entreprise. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'idée qu'il faut renforcer encore ces liens entre l'école et l'entreprise, et on va en parler. Et puis, il a mis les pieds dans le plat. Hein, il a dit, et ça nous a fait sourire tous les deux, certains jeunes qui ont fait des stages chez moi, eh bien, je ne vais pas les embaucher. Et effectivement, c'est toute la question de ce qu'on appelle les compétences douces ou les soft skills, hein, c'est-à-dire les savoir-être. Et je crois qu'effectivement, sur cette question-là, il faut que nous, l'école, on prépare mieux les jeunes à trouver leur place dans l'entreprise et puis à être, comme a dit Monsieur Dourdou, sérieux, c'est-à-dire bien engagé dans le travail. Pour anecdote, hein, j'ai échangé avec Monsieur Dourdou, qui est aussi, et je tiens à le souligner et à le remercier au passage, il est membre du conseil d'administration du collège, il représente un peu le monde de l'entreprise, et donc j'ai échangé sur un stagiaire que nous on avait, qu'il avait accueilli, une ancienne stagiaire, et il me disait, bon, elle passe sa vie sur son téléphone. Alors, c'est clair que quand on est dans une entreprise, tu passes ta vie sur ton téléphone, c'est clair que le chef d'entreprise, il attend autre chose, en termes d'engagement, de mobilisation. Et je sais qu'avec Sandro, là, que nous accueillons, nous, au collège, parce qu'on est à l'internat, donc on lui a fait une petite place pour que Sandro puisse faire son stage chez M. Dourdou, je sais que ça se passe très bien, que c'est un élève très investi, et ça, je m'en réjouis.
Et vous l'accueillez à l'internat parce que lui, il est basé peut-être trop loin du pays cordé.
Oui, en fait, c'est un élève du lycée de Mazamé, donc c'est très loin. Ouais, et donc, par conséquent, moi, j'ai rencontré son père et donc on lui rend ce petit service, voilà.
Bon, eh bien, on va écouter un peu de musique, Jean-Marc, et par la suite, on va revenir même un peu sur le côté historique hein, de cette semaine école-entreprise. Et on va aussi regarder un peu plus attentivement comment se passent les liens bien, entre l'école et l'entreprise. D'ici là, c'est Gorillaz qui nous chante Clint Eastwood.
It's coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The answer
since the basics. Without it, you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not in muscles, but percussion to provide. With me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened.
Le carnet de correspondance sur CFM Radio, la suite, toujours en compagnie de Jean-Marc Robin, le principal du collège Valcéroux de Cordes-sur-Ciel. Il est question aujourd'hui de la semaine école-entreprise qui a eu lieu cette année du 27 novembre au 1er décembre. Et Jean-Marc, tu vas peut-être nous rafraîchir un peu plus la mémoire. Là. Ça date de quand, on va dire, cette initiative pour rapprocher les deux univers?
Alors en fait, la semaine école-entreprise, elle date du début des années 2000. Tu vois, c'est l'idée vraiment, c'est une volonté croisée à la fois du MEDEF. Hein, le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France qui représente les grandes entreprises. Hein, c'est un syndicat de patrons, pour faire simple. Et le ministère, d'institutionnaliser des liens, de renforcer ces liens et d'ouvrir davantage l'école au monde de l'entreprise. On fait des stages, on fait des rencontres avec des chefs d'entreprise. Il peut y avoir des conférences, il peut y avoir des petits déjeuners aussi qui sont organisés par les établissements scolaires. Et c'est vraiment cette idée qu'il faut ouvrir l'école et l'entreprise. Alors, si tu veux bien, tu sais qu'ici, on est toujours attaché à faire un point d'histoire.
c'est toujours intéressant. Pour savoir où on va, c'est bien.
Exactement,
de savoir d'où on vient.
Il faut savoir d'où on vient. Tu sais, je l'avais raconté ici, quand l'école de la République est née véritablement à la fin du XIXe siècle, on a commencé par l'enseignement primaire, l'école gratuite et obligatoire. Et c'est vrai que la formation professionnelle n'était pas entre les mains de l'école, on ne s'en est pas préoccupé. Pour une raison simple, c'est que quand tu es dans l'entreprise, c'était formé soit par imitation, par exemple ton père était agriculteur, paysan, bah, tu l'observais. Et en travaillant, tu apprenais le métier d'agriculteur hein, ou de paysan à l'époque. Soit tu faisais ce qu'on appelle un tour de France, le compagnonnage. Hein, c'est-à-dire tu apprenais ton métier de menuisier, charpentier, tailleur de pierre. Tu faisais un chef-d'œuvre. Voilà, tu étais en quelque sorte formé par un maître d'apprentissage. Tu es constitué dans la métallurgie et plus tard un peu l'automobile, ben ces grosses entreprises avaient développé des écoles professionnelles. Donc en fait, elles formaient elles-mêmes la main-d'œuvre. Hein, donc c'était vraiment ça qui se passait. L'État, pour sa part, lui, se contentait non pas de former les ouvriers ou les futurs employés, c'était plutôt entre les mains des corporations et des entreprises, s'occupait plutôt de former les ingénieurs. Tu vois, très tôt, hein, l'État a mis en place l'école polytechnique, les ponts et chaussées, car il avait aussi besoin d'ingénieurs. En fait, la formation professionnelle, les entreprises s'en sont en quelque sorte dessaisies quand les besoins ont commencé à être de plus en plus croissants au tournant du XXe siècle. Et à ce moment-là, on commence à créer des diplômes à caractère national. Hein, parce qu'on est toujours soucieux en France d'égalité. Hein, le diplôme, il a une valeur nationale. Donc on crée en 1910 le CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. Et puis plus tard, on va créer en 1966 hein, le BEP, hein, Brevet d'études professionnelles. Hein. En fait, il a un peu disparu parce qu'en 1985, on a remplacé ça hein, par la création du bac professionnel. Mais en fait, le coup d'accélérateur, on ne le sait pas, a été donné par Vichy. Ben, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des prisonniers, beaucoup d'hommes étaient au service du travail obligatoire. Donc par conséquent, ben, il a fallu former rapidement une main-d'œuvre. Et c'est Vichy qui a donné le coup d'envoi de la formation professionnelle. Et après la Seconde Guerre mondiale, les centres de formation créés par Vichy sont transformés en école professionnelle, et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la création des collèges d'enseignement technique, qui sont devenus après les lycées professionnels qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'État a commencé à s'occuper de la formation professionnelle, tu vois, au début du siècle, ça s'est renforcé avec Vichy, puis après ça s'est accéléré avec, bien sûr, la reconstruction à ce moment-là, parce qu'il a fallu former très très rapidement beaucoup d'ouvriers et d'employés qualifiés.
Eh bien, on va revenir un peu sur ces notions par la suite, parce que il y a quand même plein de questionnements par rapport à tout ça, toujours à ces liens entre l'école et l'entreprise, une certaine forme même de méfiance. On voit d'ailleurs hein, certaines entreprises qui recommencent à former elles-mêmes leurs propres salariés. On voit aussi que certaines personnes tiquent un peu en se disant, mais est-ce qu'il faut, former des robots qui s'ajustent très bien au monde de l'entreprise, ou il faut juste former les têtes des gens pour qu'ils puissent être ouverts sur tous les domaines. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, que peut-être toi, tu nous expliques un peu ce qui a été mis en place au Collège Valsérou de Corte-Ursel. Je parlais de conférences, de visites, de stages, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté?
Alors, nous, au Collège de Corte-Ursel, cette année, on n'a pas participé en tant que tel à la Semaine École-Entreprise, mais en fait, on fait l'initiative toute l'année. Donc là, je vais recenser un petit peu tout ce qu'on fait. Hein. Je pense, par exemple, l'année dernière... il y a 2 ans plutôt, hein, on a fait venir une chef d'entreprise hein, qui s'appelle Mme Cinquin pour faire une conférence à nos élèves de 4e. Et le thème qu'on avait retenu avec elle, hein, c'était qu'est-ce qu'une entreprise ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas au collège d'enseignement d'économie, tu as un enseignement de technologie. Mmh. Alors on aborde un peu le thème de l'entreprise, mais pour les jeunes, sauf s'ils sont avec des parents chefs d'entreprise, agriculteurs, artisans, commerçants, l'entreprise, c'est une notion très très floue. Hein. Donc elle a fait une petite conférence sur l'entreprise. Et c'était bien que ce soit elle qui le fasse, parce que c'est une jeune femme d'une 40aine d'années qui, en plus, à fond dans le numérique, elle a créé une application hein, qui s'appelle Omedom. Et c'est une application qui permet, en fait, aux propriétaires de biens immobiliers de gérer leur patrimoine, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui est du numérique. Et son parcours est très intéressant. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa conférence parce que c'est quelqu'un qui vient de l'hôtellerie-restauration. Donc, tu vois, c'est une jeune femme.
Une reconversion.
Voilà. Donc mmh. ça permet de dire aux élèves aussi que le monde de l'entreprise... Faut pas partir avec des clichés. On peut très bien créer une boîte dans un secteur où on n'était pas au départ formé, mmh. avec une envie qui vient, une idée, et puis un engagement. Donc c'était très bien qu'elle fasse cette conférence-là après nos élèves de 4e. Après, on a eu la chance d'écouter Monsieur Dourdou, que je remercie, puisque on a pris la bonne habitude, j'espère que cette année on va pouvoir le refaire, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, hein, de faire visiter son entreprise. Alors c'est une petite entreprise de toutes nos classes de 5e. Donc ça, on le fait en relation avec l'enseignement de technologie. Et l'entreprise de M. Dourdou, elle est très intéressante parce que tu as toutes les parties. Tu as la partie production avec l'atelier. Donc là, tu peux rencontrer les ouvriers qualifiés qui travaillent et qui fabriquent des pièces. Après, tu as la partie un peu showroom, commercialisation. Tu as la partie administrative. Et tu as la partie aussi dessin. Il en parlait, un dessin industriel. Donc ça permet d'identifier, de dire aux élèves que dans une entreprise, il y a des postes de travail, il y a des fonctions différentes, fonctions administratives, fonctions de production, fonctions... De commercialisation et de mieux comprendre comment fonctionne une entreprise. Après, tu sais, en classe de 4e, nous, chaque année, et d'ailleurs, tu participes et je te remercie, on fait un petit forum des métiers. Donc là, je veux dire, on fait appel à des parents, des professionnels, des partenaires, et ça permet aux élèves hein, de rencontrer différents types de métiers. Alors ça va, c'est très simple, ça va du coiffeur, passant par le pharmacien, l'ingénieur...
La radio,
le gendarme, les militaires, et ça, c'est assez formidable. Et puis, je tiens à le souligner, et ça, c'est à l'initiative de M. Huc, et un petit coup de chapeau pour lui, c'est qu'il a vraiment à cœur, les mercredis après-midi, tu sais, on les anime, on fait des sorties culturelles, mais lui, il a à cœur aussi de faire découvrir les métiers. Mmh. Et c'est une excellente idée. Donc, on visite, tu vois, une boulangerie, une pharmacie. On a été accueillis très récemment par la pharmacie de Corte, que je remercie. Ça permet de faire découvrir les métiers de l'officine, le métier de pharmacien. Et puis là, actuellement, hein, ce mercredi, ils sont en train de faire une visite de la halle à la machine à Toulouse, oui. Où ils vont pouvoir découvrir hein, le Minotaure et puis tout le métier autour de métier de machiniste. On a aussi prévu aussi de faire une visite du théâtre, du Grand Théâtre d'Albi, pour découvrir aussi le métier de régisseur, le métier d'éclairagiste, etc. Donc effectivement, on a un petit programme de renforcement de l'éducation à l'orientation pour nos élèves internes. Et puis, j'oublie pas qu'on est sur un territoire agricole, rural. C'est vrai que nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a aussi des parents qui nous ouvrent leurs portes aussi hein, de leur entreprise. Et grâce à Madame Servière, hein, donc tous nos élèves de 6e, ils visitent une exploitation agricole. Et là encore, hein, on peut parler des métiers, du travail de la terre, parce que c'est pas parce qu'on est en zone rurale ici à Corte-sur-Ciel que tous les enfants connaissent le fonctionnement d'une exploitation agricole, les contraintes, le métier. On a parfois une image un peu stéréotypée, un peu caricaturale. Et puis enfin, comme tu le sais, en classe de 3e, et ça c'est propre à tous les collèges, il y a ce fameux stage d'observation que chacun situe, les collèges décident librement de le placer. Alors nous, on a décidé avec les équipes hein, de le placer au mois de décembre, dernière semaine de décembre. Bon, après, on peut placer en janvier, en février.
Ouais, enfin, en fonction des opportunités aussi. Ouais.
De chacun. Mmh. D'autres collèges, je tiens à signaler, hein, et c'est peut-être un projet qu'on conduira avec le professeur de technologie, peut-être l'année prochaine, hein, d'autres collèges vont un peu plus loin que nous et, par exemple, mettent en place des entreprises cadettes, des entreprises juniors. C'est-à-dire, concrètement, dans le cadre de lancement de technologie, souvent avec des élèves volontaires, ben, on crée comme une entreprise avec un chef d'entreprise, une fonction marketing, et on crée un bien ou un service avec une vraie commercialisation. Hein. Et souvent, pour faire ce projet-là, on est accompagné par une entreprise, enfin, par une association, pardon, qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, et qui, justement, aide à développer ce goût pour l'entreprise. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, s'agissant de l'entreprise, c'est que on est tous un peu enfermés dans nos racines. C'est-à-dire que si tu as des parents qui sont chefs d'entreprise, l'entreprise, ça va te parler. Mais si tes parents sont fonctionnaires, si tes parents sont salariés, tu n'auras pas forcément l'envie, hein, de créer une entreprise. Donc voilà, donc c'est bien d'ouvrir les portes, hein, quand on est à l'école, et de dire que cette création d'entreprise, ça peut être aussi un itinéraire possible, hein, pour nos jeunes.
Alors là, on parle beaucoup, on va dire, de la vie entre collège et entreprise. Mais pour toi qui as été, on va dire, au-dessus à l'époque où tu étais proviseur adjoint au lycée Rascol à Albi, comment se passent ces liens-là entre les entreprises et les lycées ?
Alors c'est clair qu'au niveau du lycée, surtout le lycée Rascol, hein, c'est vraiment, vraiment un lycée tourné vers l'entreprise, avec de belles formations de domaine industriel. Les liens sont très riches. D'abord, ce qui caractérise le lycée Rascol, c'est qu'il y a des BTS. Donc, tu vois, donc là, les étudiants font des stages en entreprise. Et bien sûr, les professeurs font ce suivi-là. Tu as aussi à Rascol ce qu'on appelle une plateforme technologique. C'est-à-dire qu'il y a des équipements qui sont souvent très coûteux, qui sont mis à disposition par la région. Et donc, tu vois, les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens peuvent utiliser, dans le cadre d'un partenariat avec Rascol, cette plateforme technologique pour former leurs salariés ou pour développer des produits. Et parfois, tu as les équipes, hein, qui proposent elles-mêmes des projets de création de services ou de produits qui peuvent être aussi réalisés au service.
Qui peuvent mobiliser des lycéens. Ouais.
Et okay. Puis un lycée, souvent, ça adhère à ce qu'on appelle un GRETA, ça veut dire groupe d'établissements. Et en fait, ce sont des établissements qui travaillent et qui font de la formation continue. Donc, tu vois, les liens sont très riches parce qu'à la fois, il y a la formation initiale, mais aussi la formation continue. Ça, c'est important. Et puis, quand on est au niveau du lycée, on travaille aussi avec beaucoup d'associations qui essaient de promouvoir les métiers de l'industrie, les métiers scientifiques. Et par exemple, très régulièrement, au lycée Rascol, on accueillait des cadres un peu à la retraite, tu vois, et qui voulaient se sentir utiles. Et ils venaient former nos étudiants à l'entretien d'embauche. Donc ça, c'était vraiment, j'ai assisté à ça, c'était vraiment très pertinent. C'est-à-dire qu'ils simulaient les entretiens d'embauche. Et pour avoir assisté à ces entretiens, je peux te dire que c'était de vrais entretiens d'embauche. Ouais. Mmh. C'est des gens qui avaient l'habitude d'embaucher. Et franchement, pour nos étudiants de BTS, tertiaire ou industriel, c'était vraiment une grande ressource. Après, tu as bien sûr le lycée professionnel avec ses stages. Alors, c'est vrai que dans les lycées technologiques, les lycées professionnels, tu as souvent un acteur qui est clé de la relation avec l'entreprise, ça s'appelle le chef des travaux. Alors, aujourd'hui, on l'appelle le directeur de la formation professionnelle et technologique, mais le chef des travaux, c'est celui qui va organiser ses liens avec l'entreprise et qui va essayer aussi de nouer des partenariats. Et puis, il faut le souligner, le ministère fait un gros effort cette année pour renforcer les liens avec l'entreprise, parce qu'on a recruté, je crois que c'est 2200 sur toute la France, des gens qui vont s'occuper du bureau des entreprises. Par exemple, ce qu'on a constaté, c'est que parfois, des élèves avaient des difficultés à trouver un stage. Donc, ça demande beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de stages, notamment dans le milieu professionnel. Il faut rappeler que la seconde à la terminale, c'est 22 semaines de stage quand même. C'est à peu près 6 à 8 semaines par an. Et donc là, on va embaucher des gens, on a embauché des gens, pour justement renforcer ce lien avec les entreprises et aider les jeunes à trouver des stages. Et ça, franchement, c'est facteur d'égalité des chances et c'est très très bien. Et c'est un vrai effort du ministère en direction des lycées professionnels.
Et on sent que les prochaines réformes aussi de l'éducation nationale porteront beaucoup sur ces liens entre école-entreprise. On entend déjà des rumeurs qui circulent sur même une réforme du bac pour permettre peut-être au monde de l'entreprise de rentrer un peu plus tôt. Là, j'utilise ouvertement cette métaphore-là. C'est l'entreprise qui va rentrer un peu plus, on va dire, dans les lycéens. J'aimerais qu'on marque une petite pause musicale avant d'aborder la fin de cet entretien, parce que là, on va parler un peu de défis. On va parler de méfiance aussi, parce que pour certaines personnes, ce lien école-entreprise est peut-être un peu trop proche, voire il arrive un
on
peu
est en
trop
France,
tôt.
On aime beaucoup les débats.
Ah ben ouais,
on est en France.
On écoute Paroxétine, c'est Yoa dans le carnet de correspondance.
Cerveau cassé. baiser. Qu'est-ce que tu prends? Vitamine D. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Je me sens fébrile. Je flex, j'ai Marine Serre. Paroxétine et Gucci en dessert. Je tâte le sublime. Chez Westwood, je me sers. Pour balader ma carcasse sur la terre.
Yoa, le titre c'est Paroxétine dans le carnet de correspondance de CFM Radio. Il est question aujourd'hui du lien entre l'école et l'entreprise. Et si, d'un certain point de vue, tout se passe bien, il fait beau, tout le monde s'aime, eh bien non, il y a certaines personnes qui trouvent que ce lien entre l'école et l'entreprise ne devrait pas avoir lieu de cette manière-là, ou même peut-être aussitôt, hein, déjà de parler d'entreprise aux collégiens, certaines personnes trouvent que c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'on répond à cela, Jean-Marc? Est-ce que au niveau déjà historique ou factuel, il y a quelque chose qui explique pourquoi cette défiance entre l'école et l'entreprise?
Eh bien, on explique à ces gens-là que le monde a changé, qu'on n'est plus... Alors, c'est vrai que si on fait un petit détour par l'histoire, on s'aperçoit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans tout ce début du XXe siècle, l'entreprise de type taylorienne, où tu vois, les ouvriers sont un peu maltraités par le travail à la chaîne, le travail partialisé, le travail en miettes, hein, disait un sociologue qui s'appelle George Friedman. Et il y a pas mal de souffrance au travail. Donc, c'est vrai que les relations entre le monde du travail et le monde de l'entreprise sont marquées par quelque chose, des rapports de force, des rapports sociaux qui sont marqués par une espèce de guerre des classes, hein, enfin de lutte des classes. Et évidemment, tout explose en 1968. Donc c'est vrai que côté parti de gauche, syndicat d'enseignants, le monde de l'entreprise, c'est synonyme d'exploitation, d'aliénation, de souffrance au travail. Et c'est vrai aussi pour partie, ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que les entreprises se sont transformées et puis on arrive dans les années 80, 70-80, et là le chômage de masse explose. Et là, les gouvernements de gauche qui arrivent au pouvoir avec François Mitterrand en 80 sont bien obligés de se rendre à l'évidence, c'est l'entreprise qui crée des emplois. Et donc cette défiance des partis de gauche, des syndicats vis-à-vis de l'entreprise, on commence à la questionner et on se dit peut-être qu'il va falloir qu'on repense un peu notre lien avec l'économie de marché. Donc tu as une partie de la gauche, hein, pas toute, hein, ce qu'on appelle la gauche du gouvernement, entre guillemets, qui va se convertir en fait à l'économie de marché en se disant « Bon, l'entreprise, c'est plus l'ennemi, il faut qu'on l'aide, on est dans le même bateau, le bateau France, il faut que le pays progresse et on a besoin des entreprises. » C'est tout le thème de la compétitivité qui va émerger à ce moment-là. Et donc, ça commence par une conversion à l'économie de marché et puis après à l'économie d'entreprise. Et à ce moment-là, le patronat joue une bonne carte, c'est-à-dire qu'il voit ce basculement en train de s'opérer. Et vraiment, il va avoir la volonté de se rapprocher de l'école. Puis, il faut le dire, hein, de faire un petit pas de séduction, un petit peu de séduction. Et je peux en témoigner parce que moi-même, j'ai bénéficié de ce programme qui a été initié par l'Institut de l'entreprise. L'Institut de l'entreprise, si tu veux, c'est une émanation du mouvement des entreprises de France, hein, donc des syndicats de patrons. Et l'idée, c'était de faire découvrir, alors moi à l'époque, j'étais professeur de sciences économiques et sociales, le monde de l'entreprise aux professeurs de SES parce que les patrons considéraient qu'on en parlait pas vraiment en connaissance de cause. Et honnêtement, ils n'avaient pas tort, hein, parce que moi, quelle expérience j'avais de l'entreprise. J'ai quitté la fac, j'ai passé le concours. Bon, comme tout le monde, j'ai travaillé en tant qu'étudiant. Et je ne peux pas dire que j'avais une connaissance approfondie du monde de l'entreprise. Et donc, j'ai bénéficié d'un programme pendant 3 mois. J'ai fait un stage au pôle développement des compétences et innovation sociale des Galeries Lafayette, où on m'a fait faire un parcours. Donc, j'ai pu rencontrer tout le monde, tu vois, le vendeur, des cadres, des secteurs de la logistique, la commercialisation, de la formation, jusqu'au PDG. Hein, donc, j'ai eu cette chance-là de rencontrer les deux PDG pour pouvoir les interroger et mieux comprendre leurs décisions, leur fonctionnement. À l'époque, c'était Monsieur Lemoine et Monsieur Houzé, et c'était très riche d'enseignement pour moi. C'est vrai que je suis sorti un peu en me disant, bon, maintenant tu vas pouvoir parler à tes élèves, mais en racontant ce que tu as vu.
En sachant un peu plus.
Donc c'est vrai que le MEDEF a fait cette volonté de s'ouvrir à l'école, et l'école avait aussi cette volonté de s'ouvrir au monde de l'entreprise. Et donc c'est vrai que ça a permis de mieux dialoguer, et puis de renforcer les liens. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, c'est Vincent Payon qui est un philosophe, donc on ne peut pas le soupçonner de ne pas avoir d'esprit critique, de manquer de recul par rapport à tout ça. Ben c'est lui qui a créé le Conseil École Économie en 2013. Mmh. Donc tu vois, il y a eu vraiment... En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la montée du chômage, on peut dire que quand même la gauche et une partie des syndicats ont dû quand même accepter l'évidence, c'est qu'il fallait travailler avec les entreprises. Et puis les entreprises elles-mêmes ont fait des efforts aussi hein, pour donner un peu plus de poids aux salariés. Il y a eu aussi des grandes réformes sociales hein, qui ont permis aussi de faire évoluer les conditions de travail dans l'entreprise.
Bon, alors c'est sûr qu'il faut tempérer. Hein, quand on dit entreprise, il ne faut pas uniquement penser aux multinationales hein, qui sont implantées sur tous les continents avec des dizaines de milliers de collaborateurs. Entreprise, ça part d'une TPE, PME, artisan. Voilà, c'est une entreprise potentielle.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en France, tu as 3 millions d'entreprises, tu as beaucoup de gens qui sont micro-entrepreneurs, qui sont à leur compte. Donc, le mot entreprise, c'est un mot valise. Hein. Tu as alors donc ces grosses entreprises, ces firmes multinationales qui embauchent beaucoup de gens hein, et qui créent beaucoup de richesses. Et puis, tout à côté de ça, tu as des artisans, des commerçants, tu as Monsieur Dourdou dont on parlait tout à l'heure. Donc, le monde de l'entreprise, c'est pas un monde homogène, c'est un monde pluriel. Hein. J'oublie pas non plus nos amis agriculteurs. Donc, c'est un monde très, très vaste. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut souligner que, après cette phase de défiance hein, entre l'école et l'entreprise, on a des relations qui sont plus apaisées, et c'est pas mal. Et moi, j'aimais bien ce que disait Laurence Parisot, qui était une grande dirigeante du MEDEF, qui disait, attention, hein, l'école doit se rapprocher de l'entreprise, mais l'entreprise doit se rapprocher de l'école. C'est-à-dire, c'est vraiment de travailler ensemble. Et faire tomber aussi un petit peu les clichés que peuvent avoir certains chefs d'entreprise vis-à-vis des enseignants, tu vois. Donc, c'était son idée à elle, et je pense qu'elle avait raison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un travail collaboratif des deux côtés.
Mais pour que ça se passe bien aussi des deux côtés, toujours dans la défiance, hein, dans ce lien entre école-entreprise, revient souvent le côté de « on n'a pas envie d'être formaté ». Parce que plus il y a de liens entre l'école et l'entreprise, plus on craint une forme de formatage. Parce que lorsqu'on entend d'anciens présidents de la République dire « bon ben l'histoire c'est bien beau, mais on va essayer de diminuer le nombre d'heures d'histoire pour favoriser des matières qui semblent être plus à même de faciliter l'insertion professionnelle des gens », on se dit « mais est-ce que c'est forcément le rôle de l'école ?» que de former uniquement des bons petits soldats. Je mets d'énormes guillemets autour du mot soldat.
Alors, en fait, l'école ne forme pas de bons petits soldats. Parce que d'abord, au cœur de l'école, il y a l'enseignement de l'esprit critique. Donc, tu vois, par exemple, on parle de la formation des élèves, des lycéens de l'enseignement professionnel. On va peut-être renforcer les périodes de stage, mais en même temps, on va leur offrir progressivement de faire la philosophie, d'avoir accès à la culture générale. Donc, non, l'école, elle a un programme général. Alors, c'est vrai que... l'école ne travaille pas pour... L'école doit former des citoyens. Ces citoyens, il faut accepter qu'il y a une dimension économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu formes des jeunes, quand ils ont un diplôme, c'est aussi pour trouver du boulot sur le marché du travail ou pour créer leur boîte s'ils le souhaitent. Mais c'est aussi former des consommateurs responsables, c'est former aussi des acteurs de la vie politique. Bien sûr, l'école, elle travaille pour l'économie, mais pas que. Elle travaille aussi pour développer l'expression des élèves, pour que les élèves puissent, par exemple, je ne sais pas, prendre la parole dans les médias. Nous, notre programme, c'est un programme d'émancipation qu'on vise à nous, l'école. Mais c'est vrai qu'il faut... Alors, tu sais, c'est très français, ça, parce que quand tu vas aux États-Unis, les questions ne se posent pas, hein. Voilà, ceux qui veulent une école monastère où on s'enferme entre nous avec nos élèves et dans quelque chose de très académique, moi je dirais c'était le monde d'avant, ça. Mmh. Le monde d'aujourd'hui, c'est une école qui est un peu ouverte sur la vie quand même, hein. C'est plutôt ça l'idée quand même.
Eh bien tiens, on va terminer en se penchant un peu plus, on va dire, sur les élèves, pour ne pas dire les jeunes en eux-mêmes. Toi, tu les côtoies vraiment au quotidien. Est-ce que leur représentation du monde de l'entreprise est au beau fixe aujourd'hui?
Ben en fait, Jack, je dois confesser une chose, c'est que quand tu interroges les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'être fonctionnaires.
Ah ben ouais, fonctionnaire, c'est pas YouTubeur.
Non, ils ont pas envie d'être fonctionnaires. En fait, oui, je pense que les jeunes sont assez attirés par le monde de l'entreprise parce qu'ils y voient une opportunité aussi d'être plus autonomes, d'être plus libres, de pouvoir aussi adapter leur temps de travail, de pouvoir donner du sens à leur travail. Et en fait, s'agissant des jeunes, il y a une très belle enquête qui a été faite par Monique Dagneau et Jean-Laurent Casselli dans un bouquin qui s'appelle « Génération surdiplômée », les 20% qui transforment la France. Et eux, ils disent qu'en fait, tu as deux catégories de jeunes. Tu as des jeunes qui vont bien sûr s'intégrer dans les coulisses de marché, prendre leur place, travailler pour des grosses boîtes. Et puis, tu as ceux qui vont créer leur entreprise, mais en essayant d'y donner plus de sens, soit au terme d'entreprise solidaire, tournée vers l'environnement. C'est ce qu'ils appellent, eux, l'alter-élite. Donc en fait, les jeunes, moi je vois mon fils par exemple, jamais j'aurais imaginé que mon fils fasse une création d'entreprise et je pensais qu'il allait faire un itinéraire, tu vois, dans une banque en tant que juriste d'affaires. Ben, en fait, il avait une place hein, dans une grande banque française qui lui était promise. Ben, il a refusé, il a préféré créer sa entreprise, d'ailleurs c'est bien cassé la figure, dans le domaine, disons, de l'économie solidaire pour faire simple. Et puis là, il a recréé une boîte avec d'autres jeunes où il travaille sur tout ce qui est la protection des données. Et il est très content de ça. Donc, je pense qu'effectivement, le monde du numérique, les jeunes ont compris une chose, c'est qu'on n'est pas enfermé dans un parcours. Tu vois, tu peux être à un moment donné salarié,
exactement,
après créer une boîte, ouais, revenir. Ouais, ouais. Et moi, je vois en tant que chef d'établissement, et c'était particulièrement vrai quand j'étais au lycée Rascol, ben on avait, par exemple, nous, on accueillait comme professeur de mathématiques des anciens ingénieurs qui avaient fait une belle carrière dans l'industrie et qui voulaient poser leurs valises, avoir une deuxième carrière dans le monde de l'école. Et on a quelques collègues qui font ça. Moi, je vois l'année dernière au collège de Cordes, j'avais une collègue qui a fait ses débuts en anglais, très bon début d'ailleurs, elle a eu le concours, et qui venait du monde de la banque. Et ben moi, je dis que c'est toute une richesse. Tu vois, c'est plus fluide, ça bouge, et je crois que les jeunes l'ont bien compris tout ça. Ouais.
C'est sûr que là, potentiellement avec la génération suivante, il y aura peu de personnes qui vont passer 40 ans de carrière
c'est ça,
dans
c'est
une
fini,
boîte.
C'est fini ça, c'est fini ça. C'est fini, alors on peut le voir comme une contrainte, on peut le voir aussi comme une chance hein, d'avoir plusieurs vies en fait, et puis de pouvoir évoluer en fonction aussi de son âge, de son histoire personnelle.
L'idéal et l'objectif de tout le monde, c'est d'avoir une tête bien pleine sur un corps en bonne santé aussi. C'est à ça aussi hein, que sert l'éducation nationale, hein, former de belles personnes, de bons citoyens comme tu l'as rappelé. Et pour l'entreprise, c'est un bonus aussi. Un dernier mot là pour terminer.
Oui, pour clore ce débat, parce que tous ceux qui peuvent s'inquiéter un peu de ce rapprochement de l'école et de l'entreprise, j'aimerais leur dire que l'école se rapproche de la vie, en fait, parce qu'on se rapproche de l'entreprise, c'est vrai, mais on fait de plus en plus avec de choses avec le monde des arts, on accueille de plus en plus d'artistes, on fait de plus en plus de choses avec le monde associatif, avec le monde du sport. Ben, en fait, l'école française est un petit peu en train de se décoincer et de devenir une école plus ouverte sur son territoire et qui travaille avec tout le monde. Et moi, en tant que chef d'établissement, je me félicite de travailler avec M. Dourdou, avec des artistes, avec des associations comme les Restaurants du Cœur, avec le mouvement associatif, le mouvement sportif, avec les élus. Et je trouve que, franchement, nos élèves, ils ont besoin d'être au contact de toute cette société et d'être avec tous les interlocuteurs très différents. Et c'est bien les préparer au monde de demain, quoi. Donc voilà, l'école de la vie. Moi, j'ai mis pour une école de la vie.
L'école de la vie, c'est aussi sur la radio. Hein. Si vous avez pris cette émission en cours de route, je vous rappelle le thème. Hein, l'école et l'entreprise, les liens. En début d'émission, Christophe Dourdou, qui est le fondateur et chef d'entreprise hein, de la ferronnerie occitane, était avec nous et témoignait hein, de son ressenti en tant qu'entrepreneur. Et puis là, avec Jean-Marc, nous sommes allés un peu sur différents types de sujets sur l'école et l'entreprise. Vous n'hésitez pas à réagir hein, s'il y a quelque chose qui vous a fait bondir de votre fauteuil, de votre siège, eh bien, vous contactez CFM Radio à Cordes-sur-Ciel. On se fera un plaisir de vous répondre. Pondre. C'était le carnet de correspondance. La cloche sonne pour marquer la fin eh bien, du cours. Maintenant, c'est la récré. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Merci, Jack.